Je ne sais pas si vous vivez dans la même société que moi, je pense que oui, et on ne va pas se le dire tous les dimanches, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un petit peu compliqué à tout niveau. Il y a des bruits de guerre partout. On voit qu'au niveau économique, c'est chaud, en tout cas pour notre France, pour notre continent européen, et puis un petit peu partout dans le monde. On a l'impression que les gens deviennent fous, ils sont les uns contre les autres. Et puis aujourd'hui, on n'a plus le droit de penser différemment sans risquer de se prendre une balle. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, etc. Donc je trouve qu'on est dans un climat qui n'a jamais été autant pesant. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est au contrôle. Pas un seul moment, Dieu nous a oubliés. Pas un seul moment, Dieu a tourné la tête en disant, bon, ben, je les laisse se débrouiller et puis on verra ce qui va se passer. Dieu est au contrôle, il permet, il agit aussi au travers de certaines choses. Et quand il fait ça, c'est toujours pour se glorifier. Dieu est un Dieu bon, un Dieu merveilleux, il est au-dessus de tout. Et toutes les actions qui sont, d'une certaine manière, vécues sur cette planète, toutes les actions qui sont vécues dans nos églises, bonnes ou mauvaises, je crois que Dieu se sert toujours de cela pour être glorifié. C'est vraiment l'objectif de sa vie. Il est un Dieu de bénédiction et il est un Dieu de gloire. Et dans tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous pouvons entendre, non seulement il est au contrôle, mais je crois qu'au travers de tout ce qui est véhiculé autour de nous, il nous parle aussi. Il y a différentes manières de nous parler. Il nous parle au travers de sa parole, la Bible. Il nous enseigne, il parle au travers de dons, des fois qui sont donnés aussi dans le cadre de l'Église locale, de manière prophétique, qui confirme sa parole. Mais il parle aussi au travers de la nature. Il parle aussi au travers des événements. Et dans sa manière de parler, il nous rappelle, je crois, qu'il revient bientôt. Nous en avons parlé aussi la semaine dernière, mais une chose est sûre, c'est chaque jour qui passe, chaque instant qui passe, non seulement nous rapproche du retour de Dieu, mais c'est tellement flagrant aujourd'hui de voir tout ce qui se passe que nous, en tant qu'Église, nous devons aussi peut-être nous réveiller. Nous pouvons faire l'analyse, nous pouvons faire le constat, dire, ah oui, effectivement, Dieu est en train de nous parler, mais j'aimerais juste vous rappeler que si Dieu parle, ce n'est pas en vain, et que si Dieu parle, si Dieu t'interpelle, c'est pour que tu puisses te bouger aussi. Pas pour que tu te dises juste, ah, Dieu m'a parlé, ça m'a fait du bien, c'est pour que tu puisses agir et en conséquence. Et je crois que dans ces moments difficiles, compliqués, qui ne vont pas s'arranger, Dieu nous parle et dans ces moments peut-être stratégiques, il veut lever aussi une église ici, dans notre communauté à Angers, mais partout dans le monde et partout en France. Et une église qui donne envie, pas une église rabougrie, pas une église qui est ternie, pas une église qui est d'une certaine manière dans le compromis, mais une église qui est vraiment porteuse des valeurs du royaume de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes chrétiens parce que nous suivons le Christ, nous aimons, nous voulons aimer comme lui, nous voulons pardonner comme il a pardonné, nous voulons marcher dans ses pas, c'est ce que nous avons choisi de faire en prenant la scène. Et je crois que partout autour de nous, dans ce monde qui est en crise, les gens autour de nous attendent de voir cette église, attendent de voir, comme dit le texte, la révélation des véritables enfants de Dieu. Et dans ces moments où je crois où Dieu parle, où Dieu nous interpelle, peut-être que plus que jamais, c'est le moment de se rappeler les promesses de Dieu pour nous, pour nos vies, pour notre Église, pour l'Église avec un grand E, et se rappeler le plan que Dieu va mettre en place et peut-être commence à mettre en place aujourd'hui. Je crois que plus que jamais, l'Église doit être l'Église, pas une Église de nom, pas un bâtiment, mais une Église qui aime, une Église qui pardonne et une Église qui a un repère dans la société. Tout le monde se perd aujourd'hui. On a peine à savoir ce qui est bien, ce qui est mal, et ce qui est mal, on l'appelle bien, et ce qui est bien, on l'appelle mal. Nous sommes dans cette époque, nous sommes dans cette société. Et aujourd'hui, l'Église doit être comme un phare qui, dans les ténèbres, vous savez, quand il y a la Bretagne qui est pas loin, il y a plein de phares là-bas, mais lorsque les bateaux sont perdus ou lorsqu'on doit les guider, elle est comme une lumière qui est là et qui brille. Je crois que dans les temps qui viennent, plus que jamais, l'Église doit avoir ce rôle, briller pour attirer, briller pour révéler l'amour de Dieu. Et en même temps, être un havre, comme un oasis, où les gens viennent aussi se poser. Il y a tellement de gens en souffrance autour de nous, il ne s'agirait pas qu'ils viennent à l'église et qu'ils soient encore plus déglingués qu'avant. L'église doit être un endroit où on puisse trouver le secours, le réconfort, où je puisse trouver ma place en tant qu'enfant de Dieu, en tant que frère et sœur. Et quelque part, à l'instar de ce qu'on a lu tout à l'heure, ce n'est pas l'endroit où il doit y avoir des rivalités ou des prises de pouvoir, où chacun essaie de se la raconter et de marcher sur l'autre. C'est un endroit où on doit se respecter, c'est un endroit où on doit être bienveillant, on doit prendre soin des uns et des autres, et en particulier, de ceux qui sont fragiles. Voici ce que nous dit le texte d'Amos, un texte prophétique qui n'est pas dans notre contexte présent, mais il révèle quelque chose. Amos, chapitre 3, versets 6 à 7. Et sonne-t-on du cor au rempart de la ville sans que les habitants se mettent à trembler? Un malheur viendra-t-il frapper une cité à moins que l'Éternel en soit l'auteur? Ainsi, le Seigneur n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs et à ses prophètes. Le Dieu que nous servons non seulement ne nous a pas oubliés, le Dieu que nous servons n'est pas sourd, il nous entend, il nous écoute, il répond avec bienveillance en fonction de ses plans, et il est aussi ce Dieu qui parle. Et il nous parle aujourd'hui, et il nous a déjà parlé au travers de sa parole, notamment dans le texte de Matthieu au chapitre 24, verset 3. « Comme ils étaient assis sur le mont des Oliviers, les disciples de Jésus s'approchèrent et ils prirent part et lui demandèrent « Dis-nous quand cela se produira, et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Alors Jésus leur répondit « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Je dis, Dieu parle, Dieu nous parle aujourd'hui, il nous a parlé hier, et il continuera de parler demain. Et en parlant, il nous révèle les choses qui doivent arriver. On entendra parler de guerre, de bruit de guerre. Un royaume se lèvera contre un autre royaume, une nation contre une autre nation. Et dans le terme royaume ou nation, dans ce contexte-là, il faut comprendre un groupement de manières de penser, des gens pensant de la même manière. Et plus que jamais, fut un temps, on voyait des petites guerres, un pays contre un autre. Et là, nous voyons des conceptions de la société complètement différentes se dresser les unes face aux autres. Voyons presque le monde coupé en deux ou en trois, prêt à s'affronter, prêt à se taper dessus. Et je vois, moi, dans les signes d'aujourd'hui, ce dont nous parle le Seigneur Jésus dans ce texte de Matthieu. Alors, Dieu nous parle, Dieu est fidèle à ce qu'il nous dit, il parle et la chose arrive, nous dit la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit à nous, Église ? Église universelle, Église avec un grand E, et puis Église du Colombier. Je sais que c'est une Église ici qui est sensible à ce que peut dire le Seigneur. Et je sais que le Seigneur a parlé à différentes reprises de manière prophétique, en donnant des directions aussi à l'Église. J'ai vu dans le bureau là-bas un classeur avec voilà les prophéties, voilà ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Il y a des choses qui ont été dites que le Seigneur veut peut-être nous rappeler. Des choses qui paraissent incompréhensibles, impossibles d'être mises en action aujourd'hui parce qu'on a l'impression que la saison a changé. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Et si Dieu a parlé, la parole va s'accomplir. Il y a une manière de comprendre les choses. Est-ce que ce que je reçois vient de Dieu ou est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Quelqu'un dit, on reconnaît la prophétie à son accomplissement. Et si Dieu a parlé, la chose s'accomplit, je crois, de tout mon cœur. Alors qu'est-ce que Dieu nous a dit dans les circonstances que nous sommes en train de vivre en tant qu'Église? C'est peut-être bien de ressortir les cahiers et de voir. Il y a un grand prédicateur qui s'appelle Charles Spurgeon. Vous avez remarqué que j'ai un super accent anglais, moi. Charles Spurgeon, voilà. Il a dit, quelquefois, je prends mon journal pour voir de quelle manière Dieu conduit l'histoire. C'est lui, Charles Spurgeon. C'est des beaux pasteurs à l'époque, hein, c'est autre chose que... Bref, c'est juste une parenthèse. De temps en temps, je prends mon journal pour voir de quelle manière Dieu conduit l'histoire. De temps en temps, moi, chrétien de l'Église du Colombier du XXe siècle, je prends mon journal et je me lamente. Je lis le journal et puis je me dis « Mais pourquoi ils font pas comme ça ?» Je prends le journal et je condamne. Je vois les politiques qui sont en place et je les blâme encore et encore en disant « De toute façon, j'ai pas voté pour lui, c'est normal !» Charles Spurgeon, lui, voyait de quelle manière Dieu construisait l'histoire. Nous sommes à un moment de notre histoire qui est génial, en fait, si on prend du recul à la lumière de ce que Dieu veut faire. Dieu est en train de construire l'histoire. Il est en train de mettre tout en place. Et dans cette réalité du moment, il veut mettre l'Église en place, je crois, de tout mon cœur. J'aimerais vous proposer la lecture d'un texte qu'on trouve dans le premier livre des Rois, un texte de l'Ancien Testament. Un texte que j'aime beaucoup, une question de Élie. Et Élie, il est impressionnant, si je peux dire, ce prophète du Seigneur. Et il fait des choses formidables. Et puis il y a des moments dans sa vie, il fait des choses que tout un chacun pourrions faire, c'est-à-dire passer par la dépression, se lamenter. Et quand on étudie l'histoire d'Élie, on pourrait se dire, mais comment il peut passer de ces extrêmes-là où il va affronter, dénoncer tous les prophètes de Baal, les mettre à mort, etc. On rêve tous de vivre des moments comme ça, glorieux, où le Seigneur est avec nous. Et puis juste après, il est en train de pleurer dans sa caverne, là, en disant, je veux mourir, je me sens pas bien. Je ne rigole pas, parce que j'ai souvent lu ce texte-là. Et puis moi, je suis passé aussi par ces moments-là. Extrême fierté d'avoir servi le Seigneur, extrême exaucement. Et puis des moments où, bah alors je ne sais pas si je pourrais dire que j'ai eu envie de mourir, mais en tout cas, je n'avais plus envie de rien. Et donc, il y a évidemment un enseignement à tirer de cette histoire, mais on ne va pas en parler ce matin. On va parler d'une autre histoire d'Élie qu'on trouve dans 1 Roi, chapitre 18, et on va lire à partir du verset 41. Ensuite, Élie dit à Achab, « Allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. » Et Achab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son jeune serviteur, « Monte plus haut et regarde du côté de la mer. » Alors celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, « Je ne vois rien. » Élie l'envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça, « Je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la paume d'un homme, de la main d'un homme. » Alors Élie lui ordonna, « Va dire à Achab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. » Déjà de tous côtés, le ciel s'obscurcissait, d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel, rempli de force par l'Éternel. Élie serra sa ceinture autour des reins et courut devant le char du roi Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Alors, pour remettre le contexte, je l'ai mis un petit peu tout à l'heure, donc c'est le fameux passage où Élie va victorieusement voir le roi en disant « à partir de maintenant, il va y avoir une sécheresse ». Et puis, donc, tout est sec. Vous avez vécu l'été ici à Angers ? Vous vous souvenez ? Pareil, voilà. Tout est sec, il n'y a pas d'eau. Dès qu'on sort dehors, il n'y a plus rien. C'est un peu ça pendant un bon moment. Et puis voilà que Élie, qui est attentif à ce que Dieu dit, il a appris à écouter Dieu. Il entend quelque chose de la part de Dieu. Dieu lui donne une direction. Et contre toute attente, peut-être contre toute logique, ou en tout cas contre tout ce qui est à l'extérieur, Dieu lui dit, je vais faire tomber la pluie. Il a entendu quelque chose. Je reviens à nous en disant que nous sommes dans des temps qui sont peut-être des temps de sécheresse aussi, d'un point de vue spirituel. Certainement d'ailleurs. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne veulent plus connaître les véritables valeurs. On parle aux gens, on a l'impression que ça ne les intéresse pas. On est dans l'époque du matérialisme et de tout un tas de choses. On a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte, malgré le fait que beaucoup de gens ont soif de plus en plus de spiritualité, comme on dit aujourd'hui. Mais on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, c'est sec, qu'il n'y a rien qui pousse, qu'il n'y a rien qui peut germer. Et dans ce contexte-là, lui, Élie, a entendu Dieu lui parler. La question que j'aimerais nous poser à tous, j'ai parlé de ce que Dieu a pu dire à un moment donné à l'Église, les paroles prophétiques conduites par l'Esprit de Dieu qui ont établi le cas échéant en disant « Vous allez aller dans telle direction, vous n'allez pas aller dans telle direction où Dieu a parlé. » J'aimerais nous poser la question à nous, Église d'aujourd'hui, est-ce que nous avons entendu quelque chose de la part de Dieu ? Est-ce que nous avons entendu une direction à prendre ? C'est flagrant lorsque le Covid est arrivé. Beaucoup ont prêché sur ça après, d'ailleurs, c'était marrant. Il y a les prophètes qui annoncent ce que Dieu va faire et il y a les prophètes qui annoncent ce que Dieu a déjà fait, vous savez. Et lors du Covid, c'était marrant de dire, une fois que tout s'est mis en place, qu'on a dû fermer nos églises, que tout le monde vivait dans la peur et dans la suspicion de son voisin qui pourrait éventuellement le contaminer. Vous rappelez de ce climat-là ? On a oublié, hein, ça passe vite, hein. Et à cette époque-là, il y a plein de gens qui ont écrit des livres. Le Seigneur m'avait informé qu'il y aurait le Covid. Le Seigneur m'a expliqué pourquoi. Je l'avais vu, je n'ai pas osé le dire. Je l'ai dit tellement pas fort que personne ne m'a écouté, etc. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas parlé ? Bien sûr, il l'avait fait. Et certainement, dans nos églises ou ailleurs, des gens avaient reçu des directions. Et il y en a eu beaucoup qui ont surfé sur la vague en disant, je suis un prophète je le dis après, c'est tout, mais enfin bref. On pourrait se poser la question, qu'est-ce que Dieu dit à son Église aujourd'hui par rapport à ce qu'on vit, par rapport aux temps qui viennent ? et pour notre Église par rapport à la nouvelle saison qu'on vit. Alors je sais, je pose la question parce que j'aime bien nous mettre mal à l'aise, mais beaucoup vont se dire, bah moi finalement, j'ai pas l'impression d'avoir entendu quoi que ce soit. Bah moi, on a choisi un pasteur il n'y a pas longtemps, bah c'est à lui d'écouter les directions, après tout. Nous, on le suit, c'est déjà pas mal. Dites amen. Non. Maintenant, s'il faut que je cherche les directions du Seigneur, s'il faut que j'écoute ce que dit le Seigneur, bah, chacun son boulot. Et des fois, on fait ce constat-là en disant, mais finalement, j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas. Vous avez déjà vécu ça ? Dieu ne me parle pas ou Dieu ne me parle plus. Et dans notre société, on a les deux extrêmes. Il y a soit Dieu qui parle jamais, soit il parle tout le temps. Vous connaissez les « Dieu m'a dit » ? Et Dieu parle avec équilibre. Et lorsqu'on lit la parole, d'ailleurs, un homme comme Abraham ou d'autres, Dieu leur parle, mais il ne leur parle pas non plus tous les jours. Je crois que Dieu parle quand éventuellement on va se tromper. Ou quand éventuellement il veut nous rétablir dans une direction ou une autre. Lorsqu'on est jeune, peut-être que le Seigneur nous parle souvent parce qu'on a besoin. Mais lorsqu'on est plus mature dans la foi, il parle moins. Et peut-être qu'il parle plus efficacement. Vous voyez la manière dont nous faisons avec nos enfants. Parce qu'ils sont petits, on est derrière eux. Non mais pas ça, ta bouche, c'est sale, machin, et on n'arrête pas. Et plus ils grandissent, et moins on intervient dans leur vie. On donne de grandes directions. Mais finalement, comme j'aime dire, Dieu parle moins que ce qu'on dit, mais il parle beaucoup plus aussi que ce qu'on entend. Et des fois, on fait ce constat-là en disant, mais j'entends pas la voix de Dieu, je n'arrive plus à entendre la voix de Dieu. Je sais même pas, je prie, mais j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas. J'ai découvert quelque chose, c'est que Élie, il avait plus de chance que nous. Dans le sens où lui, il n'avait pas Facebook, il n'avait pas Netflix, il n'avait pas les réseaux sociaux, il n'avait pas la télé, les multimédias qui, à longueur de journée, bassinaient que c'était la fin du monde et qui parlaient. Alors évidemment, il avait ses défis qui n'étaient pas les miens, mais il avait certainement la capacité d'écouter la voix de Dieu dans le silence. C'est quand la dernière fois que tu t'es posé dans le silence pour écouter la voix de Dieu ? Quand je dis silence, que tu as débranché tout ce qui est autour de toi, tout ce qui te sécurise des fois. Tu rentres à la maison, tu allumes la télé, tu allumes la radio, tu regardes, tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Et puis des fois on dit « Dieu parle-moi ». Et Élie est fort d'enseignement dans sa vie, que dans le moment où il ira, il sera en dépression, il ira se réfugier dans une grotte, dans une caverne, il dira « Seigneur, il faut que tu me parles ». Il y a un tremblement de terre, il y a un vent violent. Et Dieu n'était pas dans ces éléments qui faisaient du bruit. Il était dans un léger murmure, une douce brise. Et le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle, mais c'est que souvent nous ne sommes plus en mesure de pouvoir l'écouter. Parce que nous écoutons d'autres voix. Julien, c'est très simple ce que tu dis là, mais c'est tellement une réalité. La voix des médias, les voix autour de nous, mais c'est nos voix aussi intérieures. Du genre, j'arrive pas à entendre la voix de Dieu, j'arrive pas à entendre la voix de Dieu, j'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Et bizarrement, tu n'entends pas la voix de Dieu. Je ne peux pas entendre la voix de Dieu parce que je suis pécheur, parce qu'il y a ça dans ma vie. Vous voyez, toutes ces voix, finalement, que nous ne faisons pas taire, alors Dieu parle, mais nous ne l'entendons pas. Comme des ouragans, comme des tremblements de terre qui sont dans nos têtes, et nous n'entendons pas la voix de Dieu. Dans le tumulte que nous pouvons vivre, je crois que Dieu parle, que Dieu veut donner des directions précise pour chacun de nous, pour nos vies personnelles et pour notre Église. Mais on a peine à faire entendre les voix de la tradition, la voix des habitudes, les voix des les choses qu'il faut faire. Vous êtes-vous déjà arrêté sur toutes les choses que vous avez à faire et finalement de faire le constat que ça ne sert à rien ? Il y a tellement de choses qu'on doit faire et ça ne sert à rien. Et toutes ces voix que nous n'arrivons pas à faire taire, qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Élie a entendu quelque chose de la part de Dieu, et je crois que Dieu veut nous parler, et nous devons, dans nos vies, faire ce qu'il faut pour entendre la voix de Dieu. J'ai vu quelqu'un cette semaine, une sœur de l'Église, qui me dit, « Bon, moi, Julien, je lis la Bible tous les jours. » Et elle me dit, en gros, « Je ne le fais pas parce que j'ai envie, » mais elle dit « Je le fais parce que je veux que ça soit un exercice pour que Dieu me parle. » Alors je ne sais pas quelle réaction elle attendait de ma part, mais je lui ai dit « c'est bien de mettre en place des exercices pour que Dieu te parle. » Des fois on veut que Dieu nous parle, mais on fait tout pour ne pas l'écouter. Comment est-ce que Dieu peut nous parler si je suis à droite et à gauche, Dieu est un Dieu de grâce. Et on imagine qu'à un moment donné, dans notre course, il va dire, c'est moi qui te parle. Et finalement, ça se passe très rarement comme ça. Mais Dieu va te parler, par exemple, lorsque tu vas prendre le temps pendant une semaine de chercher sa face en église. Et encore mieux, à titre individuel, dans le silence de ta chambre, quand personne ne te voit faire des déclarations spirituelles, quand tu es juste toi et toi seul avec ton Dieu, que tu as mis en place tout un processus pour qu'il puisse te parler. Vous savez que c'est très... J'ai rarement vu quelqu'un qui ouvre sa Bible le matin parce qu'il a tellement envie de lire la parole de Dieu, il a tellement envie de prier, évidemment. Moi, ça m'arrive des fois, j'ai cette faim qui est là, et des fois, j'ai pas envie. Mais j'ai envie de me placer devant mon Dieu pour lui dire, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin de ta parole. Alors, est-ce que Dieu te parle ? Autre question, est-ce que tu as mis en place dans ta vie des endroits où Dieu peut te parler ? Des endroits où tu fais taire toutes les autres voix ? Où c'est pas Netflix ou Facebook qui règne, mais c'est juste la relation entre ton Dieu et toi. Ces murmures que Dieu te donne à l'oreille, ces impressions. Parce que j'ai remarqué que souvent, Dieu parle comme ça. Il dépose quelque chose de doux dans notre cœur. Une impression, une pensée. J'ai jamais reçu, moi, à titre personnel, peut-être que ça viendra, mais un éclair dans le ciel qui m'a foudroyé et Dieu m'a dit, c'est le moment. Ça a toujours été des intuitions. Et puis, des fois, je me suis trompé. L'intuition ne venait pas de Dieu. Mais j'ai appris à essayer de reconnaître ce que Dieu me disait dans la relation que j'avais avec lui. Alors, est-ce que Dieu nous parle ou est-ce que Dieu ne peut plus nous parler ? Déjà là, nous pourrions arrêter le message, essayer de voir dans nos vies et peut-être mettre en place dans notre emploi du temps des choses intéressantes. Alors, Élie entend quelque chose de la part de Dieu et puis vraisemblablement, ce qu'il reçoit ne va pas du tout avec l'ambiance de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la sécheresse. Et puis il dit, il y a une pluie abondante qui va venir et ça paraît juste impossible. Et voilà le serviteur de Dieu qui a appris à écouter son Dieu, va le roi et lui dit, voilà ce qui va se passer. Le texte au chapitre 42 nous dit que Achab alla manger, tandis qu'Élie, une fois qu'il lui avait parlé, montait vers le sommet du mont Carmel où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Élie va parler au roi en lui disant, voilà, t'as vu que c'est la sécheresse, t'as vu qu'il n'y a pas de pluie, t'as vu que c'est compliqué, moi je t'annonce qu'une pluie abondante arrive. Et le roi l'a regardé et a dit, mais bien sûr. Élie s'en va, et le texte nous dit qu'il va s'agenouiller, la tête entre les genoux. Alors comme je sais que vous aimez bien les acteurs, j'ai sollicité un acteur pour, je sais pas où il est, mon acteur, si tu veux venir. Je vous présente Élie, on peut l'applaudir. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est, il est super zélé, super obéissant. Parce que je lui ai dit, est-ce que tu veux bien faire l'acteur ce matin ? Il m'a dit oui, sans me demander ce qu'il allait devoir jouer. Mais donc, je vous présente Élie, Élie Toav. Alors, qu'est-ce que nous dit le texte ? Que Élie va voir le roi. Il dit, voilà, il y a une pluie qui va venir. Et puis après, Élie s'en va et puis il s'agenouille par terre. Vas-y. Ben, moi, je voulais le faire honnêtement, mais je me suis dit, je ne suis pas sûr de me relever après. Donc... Alors, vas-y, Élie s'agenouille. Voilà. Et le texte nous dit qu'il met sa tête sur ses genoux. Oui, il n'y a qu'un jeune de 20 ans qui peut faire ça, c'est pour ça. C'est ça. C'est ça l'idée. Regardez-le bien. Là, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'Élie fait ça ? Étrange. Il a reçu quelque chose de la part de Dieu ? Vas-y, tu peux te relever, hein, moi. On peut l'applaudir ? Pourquoi est-ce qu'Élie fait ça ? C'est très bizarre, finalement. Les spirituels vont dire, c'est parce qu'il est tellement révérencieux pour Dieu qu'il a besoin de s'agenouiller encore devant Dieu jusqu'à... Peut-être. Il remarquerait que le texte ne dit rien sur sa position. On ne peut que supposer certaines choses. Mais Élie va parler au roi en disant, voilà ce qui va arriver. Et ce qui va arriver n'est pas logique. Et ce qui va arriver paraît presque incroyable. Mais il y va quand même, fort de ce qu'il a reçu de son Dieu. Il va proclamer en disant, voilà ce que Dieu va faire. Et d'une certaine manière, peut-être qu'il se dit à l'intérieur de lui-même, je sais, c'est débile ce que je viens de dire. C'est pas logique et ça ne peut pas arriver finalement. Ou si ça peut arriver, j'ai pas l'impression en tout cas que ça arrive. Puis voilà qu'il parle, et pendant qu'il parle, qu'il annonce, il n'y a pas un nuage, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien du tout. Mais Dieu lui a parlé, et pour lui, c'est ce qui est le plus important, ce que Dieu lui a dit. Alors qu'est-ce qu'il fait pour rester dans la pensée de Dieu ? Il se met à genoux, les yeux contre le sol, plongé dans la présence de son Dieu. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Je crois qu'il fait ça pour s'isoler du monde extérieur. Il fait ça parce qu'il veut rester focalisé sur ce que Dieu lui a dit, même si tout autour, tout lui dit le contraire. Il va se prosterner devant Dieu, d'une certaine manière, fermer ses yeux physiques, fermer ses oreilles physiques pour pouvoir rester connecté à son Dieu. Des fois, dans nos vies, il faut pouvoir, voilà, l'image est belle, c'est ça qui se passe. Il faut pouvoir fermer nos oreilles physiques pour continuer d'entendre la voix de Dieu. J'ai vu dans ma vie à un moment donné où ça n'allait pas, où j'étais à l'affût de tout ce qui pouvait se passer dans le monde parce que je voulais rester informé pour pouvoir prier. Et puis j'écoutais à longueur de journée toutes les nouvelles. C'est la fin du monde, etc. Et j'entendais ça toujours. Et à un moment donné, Dieu m'a montré que je me polluais. Je me polluais complètement. Il a fallu que je ferme mes oreilles physiques à toutes ces choses-là pour pouvoir toujours écouter la voix de Dieu. Et c'est la même chose au niveau des yeux. Nous passons nos vies à regarder ce qui ne va pas. Et en plus de ça, nous consommons encore et encore des choses, des films, des séries et des machins qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et puis après, on a du mal à être connecté. On va louer le Seigneur le dimanche matin et la veille, on était pompé l'op. Et puis on dit, ah, j'arrive pas à louer le Seigneur. Comme nous a rappelé Laurent il y a quelques dimanches. Ce que nous vivons le dimanche, c'est le fruit de ce que nous avons vécu dans la semaine. C'est pour ça que des fois, c'est difficile le dimanche. Nos oreilles, nos yeux sont ouverts à tout va. Et on n'entend plus la voix de Dieu. On ne voit plus Dieu agir dans nos vies. Et des fois, c'est juste nécessaire de fermer nos yeux physiques pour voir le monde spirituel et de fermer nos oreilles physiques pour entendre la voix de Dieu. Je crois que lorsqu'Élie fait ça, c'est juste ce qu'il est en train de faire. Et nous devons choisir ce que nous devons regarder. Nous pouvons regarder tout un tas de séries et ne croyez pas que je suis légaliste, je regarde aussi des séries comme tout un chacun. Mais c'est quand le problème, ça prend le contrôle de ma vie et qu'il n'y a plus rien qui m'édifie, il n'y a plus rien qui me construit, il n'y a plus rien qui me rapproche de Dieu, ben évidemment, Dieu s'éloigne et je suis sec et il n'y a rien qui peut pousser. Je ne peux plus entendre la voix de Dieu. Alors, qu'est-ce que je choisis de regarder ? Qu'est-ce que je choisis de croire ? Qu'est-ce que je choisis d'entendre ? Évidemment, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tout ce dont nous avons besoin, nous le recevons dans la présence de notre Dieu, dans la relation que nous avons avec lui, dans l'étude de sa parole. Et c'est ça qui change nos vies. Ce qui va changer nos vies, ce n'est pas la dernière série à la mode que tu vas regarder. Et d'ailleurs, on consomme de plus en plus de séries. Au début, il y en a une qui sortait, c'était juste génial. Maintenant, il y en a tellement. On est des consommateurs de séries nulles qui ne nous nourrissent pas et qui nous pourrissent la vie. Seigneur, au travers de sa parole, dans ce livre que nous appelons la Bible, va nourrir toute notre vie, des fois, au travers de juste un verset. Qu'est-ce que nous regardons ? Qu'est-ce que nous choisissons d'écouter ? Alors voilà Élie qui est prosterné, tête entre les genoux, qui attend que son Dieu qui a parlé puisse agir. Nous ne sommes pas là pour accomplir nous-mêmes la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas là pour convertir les gens. Nous ne sommes pas là pour faire tout un tas de trucs, pour essayer de faire quelque chose dans notre société. Nous sommes là pour déclarer ce que Dieu va faire et le laisser agir. Et lorsqu'il nous montre de quelle manière nous devons agir, nous le faisons. Mais ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas parce que tu prieras plus, tu liras plus ta Bible, tu feras plus d'évangélisation que les choses vont changer. Les choses vont changer quand Dieu va se lever et va commencer à agir. Et Élie, d'une certaine manière, c'est ce qu'il nous montre. La tête dans les genoux, attendant que la parole de Dieu s'accomplisse. Nous avons entendu des fois Dieu nous parler. Et l'exemple, excuse-moi Bernard, mais est flagrant pour notre Église où Bernard, il y a quelque temps, nous a partagé qu'il y a des promesses de Dieu qu'il attendait encore. Dieu lui avait parlé et qu'il attendait encore et encore. Malgré le temps qui passe, malgré notre réalité de notre âge aussi qui avance, Dieu va agir encore. S'il a parlé, c'est sûr. Et je crois qu'Élie, il attend. Il attend ce que Dieu lui a dit. Il attend que les choses arrivent. Et puis pour voir ce que Dieu a dit, si ça arrive, j'appelle mon acteur préféré. Donc là, c'est plus Élie, c'est le jeune serviteur. Élie, c'est moi. Ça va, jeune serviteur ? Il va voir son jeune serviteur, nous dit le texte, et puis lui dit, tiens, comme t'es jeune et beau et souple, Est-ce que tu peux aller sur la montagne voir si tu vois quelque chose se passer ? Donc la montagne est là-bas, vas-y, si tu peux y aller. Voilà le jeune serviteur qui va sur la montagne. Il va voir s'il se passe quelque chose, il lève les yeux vers l'horizon et le texte nous dit que il n'a rien vu. T'as vu quelque chose, petit serviteur ? Il n'a rien vu. Là, il revient voir Élie. Vas-y, reviens. Donc ça, c'est ce que fait le jeune serviteur. Et puis le texte nous dit qu'il le fait pendant 7 fois. Donc, on va pas te laisser le faire, mais pendant 7 fois, il monte à la montagne. Deuxième fois, t'as vu quelque chose ? Non. Troisième fois, t'as vu quelque chose ? Non. Quatrième fois, etc. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du jeune serviteur ? Lui, c'est un serviteur qui aime le Seigneur, toi. Pas l'ombre d'un doute là-dessus. Il a un bon état d'esprit et c'est ce qui va faire la différence dans sa vie. Il aime le Seigneur de tout son cœur et Dieu va l'utiliser. Mais si ce n'était pas Toav, le serviteur, vous savez ce qui se serait passé ? Élie demande d'y aller. C'est le pasteur qui demande quelque chose. Il y va une fois. Et puis en y allant, il dit « Ah, je suis content. Le pasteur, il m'a sollicité pour faire un truc. » Et il monte sur la montagne et dit « Alors, c'est moi ou c'est pas moi que tu veux utiliser ?» Il monte sur la montagne et il n'y a rien. Alors là, il commence à se dire « Bon, peut-être que le serviteur de Dieu, le pasteur, n'a pas bien écouté le Seigneur. Ça arrive. Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia, qu'il le bénisse. » Et il redescend et voilà que le serviteur de Dieu dit « T'as vu quelque chose ?»« Ah non, rien. Okay. » Retourne-y une deuxième fois. Alors il y retourne une deuxième fois en se disant « Ah, j'espère que mon pasteur, j'espère que le serviteur de Dieu ne s'est pas trompé cette fois-ci. Parce que moi j'aime le Seigneur, mais il faut que ça porte du fruit ce que je fais, évidemment. Hein. C'est important. On doit le voir ce que je fais. Je m'imagine déjà quand je vais voir la pluie tomber et que je vais revenir en courant, dire au serviteur, ah, la pluie arrive. Et puis il y va, et il n'y a rien. Et là, en redescendant, il est en train de se dire, mais c'est quoi ce pasteur en carton là ? Homme de Dieu, ça ? Il ne comprend rien à la vie. Dieu lui parle ? Ouais, Mani. Et il redescend. Et puis là, comme il aime garder les apparences, le serviteur lui dit, t'as vu quelque chose ? Non, j'ai encore rien vu. 3 fois, jusqu'à 7 fois, vous avez compris ce qui se passe dans sa tête. Et voilà le serviteur qui, à un moment donné, c'est presque ridicule finalement, revient en disant, j'ai vu quelque chose. J'ai vu un petit nuage. Et là, il dit au serviteur, mais tu t'es foutu de moi, t'as parlé de grande pluie qui arrive, je vois un petit nuage, la taille de la paume d'une main, dit le texte. Merci toi, que le Seigneur te bénisse. Ce qui se passe quand on prend le temps de réfléchir, finalement, c'est presque ridicule. Et il y a notre Élie qui est là, la tête dans les genoux, et qui s'attend à ce que Dieu manifeste sa promesse, que sa promesse s'accomplisse. Et pendant 7 fois, maintenant vous le savez que 7 fois, c'est le symbole du temps accompli de Dieu, du temps parfait de Dieu, du temps nécessaire, certainement pour émonder le cœur du jeune serviteur, lui apprendre quelque chose. Et puis Élie qui est là, qui attend ce que Dieu lui a dit. Et dans son cœur, il y a des doutes. Dans son cœur, il y a la pression du temps. Dieu a dit qu'il allait faire pleuvoir. Et ça ne passe pas, il y a toujours du soleil autour, c'est toujours sec. Je ne vois pas ce que Dieu m'a dit, mais je crois que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et son serviteur qui descend pendant cette reprise, il n'y a toujours rien. Il y a des gens comme ça dans nos églises, qui sont là, que Dieu utilise. Mais on reçoit quelque chose de la part de Dieu et ils disent, mais non, il n'y a rien. J'ai un peuple nombreux à Angers. Ouais, ben on est 70, 80, 100. Il y a tout ce que Dieu m'a promis pour l'avenir, je ne suis pas encore entré dedans. Ah oui, c'est normal, et peut-être ça n'arrivera pas parce que Dieu n'a pas parlé. Peut-être que finalement tu as entendu la voix de Dieu, mais c'est juste que tu avais mangé trop de pizza, c'est l'indigestion, ça te fait entendre des choses. Vous voyez tout ce processus qui est là. Et Élie reste tourné vers ce que Dieu lui a dit. Et après, ce serviteur qui arrive, on parle de grande pluie, de pluie abondante, et qui revient en disant, j'ai vu un petit nuage. Et Élie, il n'en faut pas plus pour booster sa foi. Il s'en va au courant à la fin du texte qu'on a lu tout à l'heure. Il va même courir devant le char. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Tellement il est impatient de voir ce que Dieu va faire. Il y a des fois dans nos vies aussi, des petits signes d'encouragement que nous sommes des fois incapables de voir. Et je crois qu'à notre époque, malheureusement, nous a tellement vendu une théologie où quand Dieu faisait des choses, c'était évidemment des choses glorieuses, merveilleuses, etc. Et quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, évidemment, on pense à tout un tas de choses, alors que la puissance du Saint-Esprit déjà va changer nos cœurs. Plus difficile que de faire des fois certains cinémas. Changer nos cœurs, changer nos vies. Aimer comme Dieu aime. La puissance du Saint-Esprit en nous, finalement, est-ce que ce n'est pas pour nous transformer à nous, déjà ? Et on attend des signes, et nous sommes incapables de voir des petits nuages, des fois, qui sont juste autour de nous, comme des clins d'œil que Dieu nous dit. Alors, est-ce que j'entends la voix de Dieu ? Est-ce que je suis en capacité de voir même les signes que le Seigneur me montre pour m'encourager dans ma foi ? Alors, je reviens à notre histoire à nous, dans notre siècle présent, dans notre contexte. Voyons ces choses qui sont compliquées de plus en plus. Mais est-ce que nous voyons les petits nuages autour de notre église ? Peut-être que tu es à l'église là depuis longtemps et tu te dis, bah, moi j'ai l'impression que c'est sec. Pourquoi je dis ça ? Parce que je sais comment ça se passe dans les églises. J'étais pasteur de 3 églises, et une à Marseille, une à Limoges et maintenant à Angers. Et ce que j'ai remarqué, qu'on soit du nord, du sud ou de l'ouest, et bah, y a toujours le cœur de l'homme qui est là. Et on est tous câblés pareil, on pense tous de la même manière. Et toutes les réflexions que les uns et les autres peuvent avoir, j'ai eu les mêmes. Et j'ai entendu les mêmes à Marseille, à Limoges et à Angers. Peut-être des fois on est là à l'église depuis longtemps, et qu'est-ce qui se passe ? C'est sec, j'en ai marre, et puis ils ont encore changé les chaises ce matin. Enfin. Et on ne voit pas les signes, on ne voit pas les nuages, on ne voit pas le petit nuage, le signe encourageant où Dieu te dit, regarde, j'ai commencé à agir. Regarde, j'ai commencé à répondre à tes prières. Regarde ce que je t'ai promis depuis longtemps, ce que je vous ai promis à vous, l'église du Colombier, c'est en train de se mettre en place là. Sois encouragé, commence à courir. Commence à te réjouir, commence à placer ta foi dans ce Dieu que tu sers, qui t'a parlé et qui est en train d'accomplir ce qu'il t'a dit. Des fois, on est incapable de voir. Il y a quelques années, il y a un journal qui s'appelle Riposte Laïque. Et il dit, c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui en France et partout dans le monde. Vous savez pourquoi c'est terrible ? Parce que d'après lui, il y a des évangéliques partout. Et les évangéliques se reproduisent de plus en plus. Et donc lui, il dénonce ça, c'est des chiffres qui datent maintenant. Mais il dit, à tous les 10 jours, il y a une nouvelle église qui s'ouvre, une église évangélique qui s'ouvre en France, et c'est terrible. Et il y a ce gars qui est là, qui n'aime pas le Seigneur, visiblement, qui est en train de se catastropher face à la réalité du terrain. Et des fois, nous, dans nos églises, on dit, oh, c'est tellement dur aujourd'hui, on ne voit plus la gloire de Dieu. On ne voit plus telle et telle chose. Et finalement, quand on regarde les chiffres, on est dans le plus grand réveil qui a jamais eu lieu depuis toujours. En France, en Europe et partout dans le monde. On est incapable de voir le petit nuage qui est là pour nous encourager. Certains, très spirituels, diront, bah, bien sûr, une église qui s'ouvre tous les 10 jours, on ne dit pas combien ferme aussi tous les 10 jours. Oui, c'est sûr, c'est aussi juste. Mais finalement, peut-être que ce que nous vivons, je disais tout à l'heure, ces temps compliqués que nous vivons, c'est la plus grande saison dans laquelle Dieu va se manifester. Peut-être que ça, nous ne le voyons pas. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a dit ? Qu'est-ce que Dieu va révéler ? Et qu'est-ce que je vois ? C'est un tas de questions auxquelles chacun d'entre nous doit répondre, devant son Dieu, dans l'intimité avec Dieu, et aussi pour notre Église. En tout cas, moi, je vois bien que les choses sont compliquées, ici comme ailleurs, comme ça a été à Limoges, comme ça a été à Marseille. Mais j'ai fait le choix de me dire que le Dieu que je sers est plus grand que ce que je peux voir. Et que le Dieu que j'ai choisi d'écouter, malgré ce que j'entends, est différent de ce que Dieu m'a dit. Je crois que c'est Dieu qui aura le dernier mot, quoi qu'il arrive. Je crois de tout mon cœur que parmi nous ce matin, je ne suis pas le seul à faire ce choix. J'ai bien dit faire un choix, parce que souvent ça se passe par un choix. C'est pas ce que je ressens qui va changer ma vie, mais c'est ce que je choisis de vivre et de croire. Je choisis d'aimer, je choisis de pardonner, je choisis de croire Dieu, même si tout me dit l'inverse. La croyance n'est pas quelque chose qui, à un moment donné, me tombe dessus et puis ça y est, à partir de maintenant, je suis croyant. Dieu me convainc de péché, de justice et de jugement par son esprit. Et après chaque jour, je choisis de croire ce qui est la vérité, ce qui est ce que Dieu m'a dit. C'est comme ça que ça se passe, tout simplement. Alors s'il y a des croyants parmi nous ce matin, nous allons prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, roi des rois, seigneur des seigneurs, Nous sommes bien inférieurs à toi. Pourtant, tu as quitté ton ciel de gloire. Tu as donné ta vie pour nous. Et tu nous as réconciliés avec le Père. Et Seigneur, nous, ce matin, nous croyons que ça, c'est la vérité, la réalité. Nous ne choisissons pas de croire ou de nous soumettre à tout ce qui peut nous entourer, tout ce qui nous effraie, tout ce qui nous parle et qui hurle dans nos oreilles. Mais nous choisissons d'écouter ta douce voix légère. Pardonne-nous, Père, notre négligence. Pardonne-nous, Seigneur, notre facilité. Pardonne-nous si à chaque fois nous sommes presque à exiger que tu nous parles parce que nous mettons 2 heures dans ta présence, Père. Viens nous transformer. Viens nous changer. Te remercions, Seigneur, pour la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous, en tant qu'Église ici, Église du Colombier, dans cette ville d'Angers, dans ce pays de France et sur cette planète, nous croyons que tu as choisi chacun de nous pour un temps comme celui-ci. Tu nous as qualifiés parce que tu nous aimes et parce que tu nous as aussi parlé, Père. Seigneur, si tu nous as parlé, nous voulons serrer dans nos cœurs ce que tu as dit, même si nous ne voyons pas. Et Père, si tu ne nous as pas encore parlé, te supplions de pouvoir le faire. Montre-nous, confirme-nous, à titre individuel, mais aussi pour notre Église, Père. Parle-nous. Viens confirmer, Seigneur, ce qui est mis en place. Nous ne voulons pas faire l'Église, nous voulons être l'Église que tu conduis. Et dans ces temps particuliers. Merci pour ton esprit, pour l'action de ton esprit. Merci de faire ton œuvre en chacun de nous, Père. Que la gloire te revienne, Jésus. Amen. Alléluia.